Bienvenue sur les podcasts de Blast, un média indépendant créé pour redonner du souffle à l'information. Blast vous propose un autre regard sur l'actualité, à travers des reportages, des décryptages, des enquêtes et des entretiens que nous avons décidé de convertir ici en podcast. Notre ambition, devenir votre média de référence et ainsi peser dans la bataille de l'information qui s'annonce et qui sera décisive. Les podcasts de Blast. Zoom. Arrière. Avec Denis Robert.
Au fond, ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches.
Ah non, oui, bonjour, c'est Marco et Simon.
Putain, j'aurais mis trop loin.
Que c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de à quel point on est en haut et à quel point on est déconnecté des gens normaux. Quoi.
Mais vous comptez faire ça toute votre vie ou au bout d'un moment, vous en avez grave marre?
On fait quand même du cinéma et on voulait pas que ce soit un catalogue des métiers. On essaye toujours de mettre un peu de pétillant là-dedans et donc on attendait le bon moment. Et le bon moment, c'est la rencontre avec Sarah Salman.
Et j'ai dit encore, c'était une petite matinée, là.
Fallait que je bouge, fallait que je travaille. Ça me faisait tout bizarre, moi.
De vous montrer des personnages qui sont heureux de travailler. Mais on a tous des copains et tout, ça les fait chier de travailler, quoi. Et il y a un rapport au travail qui est plutôt négatif.
C'est toujours un rapport de dualité entre la dureté et la dignité.
Dans l'ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps.
Et en fait, en écrasant le coût du travail, on écrase les travailleurs eux-mêmes.
Il faut qu'on se réveille et il faut qu'on travaille davantage collectivement.
Moi, je me fais un devoir de continuer de mener le combat et surtout de montrer tout le temps que c'est quand on est ensemble qu'on est fort.
Ah, bah ça fait plaisir de vous revoir chaque année, notre petit rendez-vous, le film, etc. Là, vous êtes allé au boulot, enfin vous bossez beaucoup, toi, la ferme des Bertrand, toi, ta vie politique quand même assez active avec ses soubresauts, et vous avez quand même le temps de faire un film, un bon film. Moi, je trouve que vous êtes les seuls dans le paysage à montrer ces gens qui travaillent, à montrer des ouvriers, à montrer des femmes de ménage, enfin, je vais pas énumérer toutes ces personnes-là, il y a que vous qui faites ça, quoi. Et donc, après, le film, on va en parler, on est là pour ça, quoi, mais le film, bon, vous servez de l'argument de cette chroniqueuse de CNews qui s'appelle Sarah Salman.
Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. C'est quoi, c'est un rhume, une angine, et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses?
Quand je suis entré à l'Assemblée nationale, j'ai déposé des amendements vie ma vie, tous azimuts. Je disais au ministre de l'Éducation d'aller en collège REP d'abord, je disais au ministre de la Santé d'aller en EHPAD d'abord, je disais au ministre de la Justice d'aller en prison d'abord, toujours comme stagiaire. Hein. Et jamais, même je l'ai fait régulièrement sur les plateaux télé, et jamais ça a mordu à l'hameçon. Et la première qui a mordu à l'hameçon, ça a été Sarah Salman.
Je viens ici pour une invitation amicale à Madame Salman.
Amicale.
Et que vous veniez vous installer pendant un mois, deux mois avec le SMIC.
Admettons, je me mets dans ces conditions, je l'accepte, mais pas pour cette durée-là. Une semaine, ça sera déjà pas mal.
Ah bon?
Merci.
Une semaine au SMIC sera déjà pas mal.
C'était sur le plateau des Grandes Gueules, elle n'était pas encore sur CNews. Et bon, après, j'ai tout fait pour la ramener sur la berge. Je suis, tu sais, comme un chien qui est tout content, qui ramène un nonos à son maître. Je l'ai ramené à Gilles. Mais Gilles, tu regardais le nonos en disant « Ouais, bof, je ne sais pas si j'allais le mordiller, celui-là. »
Enfin, déjà, moi, je ne la connaissais pas. Je ne sais pas si toi, tu la connaissais, mais moi, je ne la connaissais pas.
J'avais repéré.
Et c'est vrai que quand François me dit « Il y a Sarah Salman », je vais voir sur les réseaux sociaux, je vois cette femme, cette chroniqueuse. J'étais persuadé que le procédé qu'on voulait utiliser pour raconter notre histoire était bon, de gérer des contraires comme ça, de l'emmener au boulot, etc. Mais par contre, je ne me sentais pas capable de la supporter. Donc voilà, c'était ça ma réticence. Mais sinon, j'ai pas résisté bien longtemps.
Moi, je vous envoyais un SMS. C'est vrai que par moments, je suis comme tout le monde. Hein, il y a des scènes où je suis vraiment ému, quoi, de la voir. Quand elle pleure dans les bras de cette femme de ménage, enfin cette assistante de vie, c'est pas fin, quoi. Enfin, je veux dire, elle est réellement elle-même. T'as l'impression que c'est Martine qui découvre le monde, quoi. Enfin, tu sais. Alors après, c'est très particulier, mais on en parlera de la fin du film parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe complètement et qui vous échappe, j'ai l'impression, quoi. Mais pour revenir à votre entente à tous les deux, au départ, c'était pas évident. Toi, t'y croyais pas trop, quoi, à son histoire.
Le film avant Sarah Salman, parce qu'on savait le film qu'on voulait faire, qui était plutôt notre France, une espèce d'errance dans notre France, c'est-à-dire une France humaine, fraternelle, une France du travail, une France populaire, et qui était en fait ancrée dans le mouvement des retraites. C'est à ce moment-là qu'on veut faire un film. Parce que notre précédent film, c'était « Debout les femmes ». C'était sur le temps du Covid. Et il y avait le président de la République qui a dit « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Et à la place de la reconnaissance et de la rémunération, il y a eu, au contraire, la double peine, l'inflation qui est venue gréver les petits salaires et la retraite à 64 ans qui pèse d'autant plus sur les métiers physiques populaires. Et donc, nous, on se dit « On ne veut pas les oublier ». On veut refaire un film sur la deuxième ligne, sur les essentiels, sur les invisibles. On veut retourner...
Est-ce qu'il y a un road movie, un truc comme ça ouais.
Comme on fait souvent, un jeu du soleil, déjà un road movie. Dans Debout les femmes, on suit une mission parlementaire qui amène un côté road movie aussi. Et là, il y avait... on voulait faire une errance dans notre France. Et en même temps, on butait parce que on savait qu'un film de Ruffin et Perret sur les ouvriers, les employés.
Ouais, c'est attendu. Quoi.
Ouais, ça manque d'originalité.
Mais vous aviez commencé à tourner déjà ou
non, pas du tout. On s'était vu plusieurs fois préparer ce film, mais on n'avait jamais le bon déclic, le bon moyen cinématographique, parce qu'on fait quand même du cinéma. Et on ne voulait pas que ce soit un catalogue des métiers, on ne voulait pas que ce soit quelque chose de rébarbatif. On essayait toujours de mettre un peu de pétillant là-dedans, et donc on attendait le bon moment. Et le bon moment, c'est la rencontre avec Sarah
Salman. Parce que comment vous faites quand vous fabriquez vos films? Est-ce que vous avez scénarisé?
Non, mais
tu dis vous improvisez, c'est pas vrai.
Non, on n'écrit rien.
C'est vrai ?
Non, rien. Nous n'écrivons pas une ligne. Nous n'avons pas écrit une ligne sur Le Jeu du Soleil, pas une ligne sur Debout les
femmes. Vous demandez des aides quand même ou vous
faites posteriori.
Des dossiers ?
Ah, oui. Enfin, voilà.
Non, mais on a la chance d'être suffisamment libre parce qu'un film paye le suivant et donc on a le compte de soutien du CNC pour les spécialistes. Mais sinon, on ne passe devant aucune commission, on ne demande pas des subventions ni quoi que ce soit. Donc c'est aussi le gage de notre liberté. Donc on a quand même de la chance de pouvoir partir.
Et toi qui sors d'un gros succès avec La Ferme des Bertrands quand même.
Je suis blindé.
Non, c'est. Je te parle pas de ton compte en banque, je te parle du succès populaire. Ouais, ça a été incroyable. Ouais, vous êtes presque 200 000 entrées.
250 000.
Il déclenche les mouvements sociaux des agriculteurs pour soutenir ses films. Si c'est quand même malaise.
Bon. Il y a un problème. Enfin, c'est pas un problème. Il y a une temporalité parce que quand on voit votre film maintenant, en fait, il y a des scènes d'Halloween de l'année dernière. Mm-hmm. Donc Sarah Salman, vous l'a contacté il y a plus d'un an, quoi.
Je suis intervenu sur le plateau des Grandioles au moment des mouvements des retraites. Donc ça nous amène un an et demi en arrière. Ça a mis quelques temps à se lancer, je pense que voilà. Donc,
Et la séparation s'opère quand?
Je sais pas.
Fin d'année dernière, enfin...
Janvier, février, peut-être.
Ouais, ou avant. Ouais,
je sais plus.
Parce que, je mets les pieds dans le plat tout de suite, parce que vous faites ce road movie, vous allez voir des gens avec elle, vous la trimballez partout, et donc il y a l'idée, enfin je sais pas si vous êtes sincère, ou si François t'es sincère dans ta volonté de la faire changer, si t'y crois vraiment, mais on a l'impression, comme téléspectateur, ça fonctionne très bien, parce qu'on se dit, cette femme qui est quand même, elle est plus cadre, enfin c'est même plus le problème qu'elle soit à droite ou pas à droite, elle défend les riches d'une manière tellement outrageuse.
Je pense que c'est plus vertical qu'horizontal, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de à quel point on est en haut et à quel point on est déconnecté des gens normaux. Quoi.
Mais alors, elle est assez touchante. Tu vas dire, je me plante peut-être, mais je la trouve... Parce que le fait qu'elle accepte de jouer le jeu, je trouve ça super
part. Reconnaissons-lui ce mérite-là. Elle a quand même accepté de jouer le jeu et pas tout le monde l'aurait fait, y compris dans nos milieux.
Et donc, avec de l'humour, moi je tiens à dire qu'on fait un film qui est drôle. Ouais. Tu vois, parce que l'humour et la gauche, je pense qu'il y a un vrai problème.
Toi, c'est quoi? Tu sais pas? Gilles ?
Navet.
Putain, on est nul.
Je trouve qu'elle a aussi de l'ironie sur elle-même. Elle accepte de, y compris de se montrer dans des postures qui sont pas franchement.
Elle
nettoie des chiottes. Et puis, il y a de la joie dans notre film. Moi, je le dis parce que je pense que faire dans le temps qu'on vit, qui est quand même un temps de morosité. Je pense que la France est en dépression et que c'est un problème politique. Problème politique, tu vois. Quand on lit le journal d'un Allemand qui est écrit par un gars qui avait 20 ans dans les années 30 en Allemagne, il dit, voilà, Hitler s'est imposé moins par la volonté de quelques nazis que parce que les Allemands sont tombés par millions en dépression. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit un temps de dépression. Et donc, la joie est un devoir, presque.
Mais c'est une question que je me pose et que je vous pose à tous les deux, parce que dans les personnages de travailleurs que vous montrez, vous ne montrez que des gens, enfin, si je ne me trompe pas, même dans les Restos du Cœur, enfin, encore que... vous montrez des personnages qui sont heureux de travailler, qui ont un rapport même si la nana dit « je gagne 1000 balles à torcher le cul des vieux, mais je suis heureux de les travailler parce que j'apporte du bonheur, etc. » Et vous n'avez pas de personnages qui, à mon sens, représentent... Alors, je j'ai pas fait de calcul de proportion, mais on a tous des copains et tout, ça les fait chier de travailler, quoi. Ouais, écoute, et il y a un rapport au travail qui est plutôt négatif.
Après, dans l'usine à poissons, si tu veux, quand tu vois les gars qui travaillent dans des conditions super dures, qui sont tout esquintés, qui ont déjà des prothèses à l'âge de 38 ans, ils sont pas heureux de travailler. Ils sont dans la nécessité de travailler. Mais après.
Mais vous les montrez pas trop. Vous montrez l'usine à poissons, mais vous montrez pas tellement de travailleurs qui ont un rapport alimentaire avec le truc et qui.
Je pense que eux le disent en partie, mais faut bien voir que dans le rapport au travail, et même quand on démarre le film sur dans les retraites, tu vois, parce que c'est vraiment notre point de départ, c'est ce qu'on entend sur les mouvements des retraites. Les gens disent quoi ? Ils disent on aime notre métier, on n'aime pas comment on nous fait faire notre métier. Mmh. Et donc je pense que dans le rapport au travail, il faut dire à la fois les difficultés et la fierté. Il faut dire la dureté et la dignité. Et en fait, même dans l'usine à poissons, qui est en gros le métier le plus répétitif, dur, mais le gars, il dit, mais moi, j'étais filteur et j'étais fier d'être filteur. Bon, leur problème, c'est qu'à force d'avoir fait des gestes comme ça pour découper le poisson en deux, bah, le gars, il a 38 ans et il dit, je suis Robocop, quoi. Mm. Mais je pense qu'il y a toujours dans le rapport au travail, enfin, dans les classes populaires, moi, quand j'en discute, c'est toujours un rapport de dualité entre la dureté et la dignité. Donc, comment on fait pour faire diminuer la dureté et faire élever la fierté, quoi.
Mais il y a un message subliminal, enfin, en tout cas, même plus que subliminal, puisque tu le dis, qui serait le travail est une sorte de vertu et le Français doit travailler, doit être heureux au travail. C'est ce que tu dis un petit peu ou je me trompe?
Non, mais, enfin, même ma conviction la plus profonde, c'est que la société, c'est du travail, qu'il soit bénévole ou salarié, mais c'est du travail mis en commun. Aujourd'hui, on peut pas faire cette émission si jamais t'as pas tes salariés qui sont là, si toi tu travailles pas, s'il y a pas quelqu'un qui a fabriqué le cahier, si jamais là on m'a servi un verre d'eau, mais t'imagines la quantité de travail accumulé mis en commun dans ce verre d'eau pour faire le gobelet, pour le mettre
fétir en plus, c'est voilà,
pour mettre de l'eau à l'intérieur, que l'eau elle soit purifiée et ainsi de suite. Mm. La société, c'est du travail mis en commun. Il me semble que si la société va mal centralement depuis 40 ans, c'est parce que depuis 40 ans, on considère non plus le travail comme un atout, mais qu'on le travaille comme un coût. On le considère comme un coût qui a diminué, comme un coût qui a écrasé. Et en fait, en écrasant le coût du travail, on écrase les travailleurs eux-mêmes. Mais moi, ma conviction profonde, c'est que la société, c'est du travail, je le redis, salarié ou bénévole, mais c'est du travail qui est mis en commun.
Mais est-ce que vous avez la même vision de ce que doit être le travail? Est-ce qu'il y a des divergences entre vous? Est-ce que toi, par moment, tu lui dis, mais je sais pas, dans le casting, par exemple, est-ce que vous aviez d'autres personnages à montrer? Ou est-ce qu'il y a une sorte d'évidence qui se fait entre
vous? Non, mais tu sais, moi, je suis assez d'accord avec François sur cette question du travail. Quand tu discutes avec les gens, c'est sûr que c'est dur de travailler, mais c'est dur de ne pas travailler. Mmh. Voilà, donc y a quand même un choix à faire là-dedans. Après, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens ils vivent dignement de leur travail et qu'ils en vivent correctement et qu'ils ne sortent pas complètement esquintés. Après, dans le casting, si tu veux, le film, on le construit comme ça. On commence à déminer l'histoire. Elle prend position sur son plateau du haut de sa suffisance.
Comme
quoi, Sarah Salman, que 1300 euros, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas pourquoi
c'est
les emplois... C'est
Feignasse qui...
C'est Et donc, on commence à aller dans cette usine à poissons, on commence à aller avec Luisa, qui est auxiliaire de vie sociale, qui gagne 1000 euros par mois. Enfin bon. Et tout ça, finalement, en très peu de temps, ses préjugés sont déminés. Sur la question des 1300 euros, 4 heures dans l'usine à poissons, elle était déjà la retraite à 64 ans, elle ne voulait plus en entendre parler. 1300 euros, effectivement, ça ne suffit pas. Donc, c'était facile. Sauf que dans l'usine à poissons, une séquence qui n'est pas dedans, les salariés qui sont autour de la table dans la salle de pause, elle leur dit : Ouais, mais vous, ça va, ce n'est pas vous que je jugeais, mais c'est les assistés. Ce sont les assistés, tous ceux qui ne veulent pas lever leurs fesses du canapé. Quoi. Et là, tout le monde autour de la table dit « Ah oui, les assistés ». Donc, ça veut dire que cette question de l'assistanat a gangréné depuis longtemps, y compris les classes populaires. Ce n'est pas seulement les préjugés de Sarah Salman. Et donc, du coup, on construit le film comme ça en se disant « Aïe, 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 là, il y a problème », parce que cette question-là, elle est quand même génératrice d'un vote RN énorme. Et donc, on va aller déminer ça. Donc, on va au Secours populaire, donc on va au territoire zéro chômeur. Voilà comment on construit le film. Pas forcément focalisé que sur le travail, mais pour déminer les a priori sur le travail et sur les assistés que peut avoir Sarah Salman et les gens en général.
Est-ce que vous la sentiez, parce qu'on a l'impression que même ses valeurs, elle prend conscience d'un certain nombre de choses, ça a l'air vrai ça.
Oui, mais je pense qu'elle évolue au fil du film, sachant que moi c'est pas mon sujet. Mais,
je sais, c'est ce que tu dis, je vais vous dire quelque chose, moi en tant que spectateur du film et qui a plutôt de la tendresse pour vous et qui aime vos films, etc., à un moment donné, je me suis dit, mais il y a une arnaque à la fin, quoi. Parce que à la fin du film, qui est très joyeuse, hein, vous dressez une table, il y a une sorte de mini-festival de Cannes. Non, mais tout ça.
Censure.
Mais, non, mais tu sais, parce que tu construis. Et entendez-moi bien, là, tu construis toute une narration autour de ce personnage, et à la fin, par une sorte de pirouette, tu nous dis, enfin, je ne sais plus, en voix off, si c'est toi ou... Mm. Et tu nous dis, non, mais bon, on s'est fâché à cause de... Elle a dit des horreurs sur la Palestine, donc on a plus besoin d'elle, mm. etc. Mais toi, en tant que spectateur du film, même si t'es content d'avoir fait ce voyage avec vous, tu t'es hyper frustré, quoi, parce que tu te dis, mais attends, mais pourquoi ils nous construisent une narration pendant 1h20, et puis pour nous dire, non, mais allez vous faire voir ailleurs, nous, on a décidé de l'écarter, etc.
Je suis d'accord avec toi sur la méthode narrative, dans le sens où on avait à peu près fini notre histoire avec elle, puisqu'on avait déminé ce qu'on voulait déminer, et que finalement, on arrive quand même au bout d'un processus, et qu'a priori, enfin, tu l'as vu comme ça, je respecte, mais c'est vrai qu'on a vu 15 000 spectateurs dans les salles de cinéma, on nous a pas... souvent fait sortir
le film. Le film a un gros succès, les salles sont pleines.
Mais sur cette question-là, il y avait un moment donné où on avançait étape par étape avec elle, et tu n'auras pas échappé qu'il y a eu le 7 octobre, qu'on commence quand même avec Sarah Salman, le projet de film, elle travaille sur RMC. Elle a des prises de position qui sont des prises de position sur le côté social, qui sont des prises de position qui nous intéressent parce qu'on veut combattre ces prises de position. Et après, alors qu'on tournait un film qu'on revendique comme humaniste, proche des gens, parce qu'il y a beaucoup d'humanité, on pleure aussi dans le film et tout ça, on avait une Sarah Salman qui était sympa avec les gens sur le terrain, mais après, elle avait aussi des propos qui étaient sans aucune compassion pour les enfants de Gaza, des choses comme ça. Donc, on ne pouvait pas faire un film humaniste là, en France, en tournant notre espèce de road movie. Et puis, quand on allume la télé, entendre des propos qui sont inacceptables. Donc, du coup, il y a un moment donné, on a dit, bon, on va arrêter avec toi, c'est plus possible.
C'était ça ma question sur la temporalité, parce que, en fait, quand vous avez démarré le film avec elle, il n'y avait pas eu encore le 7 octobre.
Non, bah non.
Ah ouais, mais elle tenait déjà, des après le 7 octobre, elle tenait déjà des propos pro-israéliens qui étaient... que ce soit pro-israélien, ce n'est pas le problème, mais qu'elle n'ait aucune compassion pour les victimes de Gaza. C'est, elle ne l'a pas fait qu'une fois, elle l'a fait plusieurs fois. Et c'est vraiment ça qui a été déterminant pour vous.
Bah, dans la relation qu'on avait en off avec elle, c'était quand même quelque chose qui faisait plus que crisper. Tu vois, je trouve que sur le terrain du social, on est habitué à une lutte des classes, la bourgeoisie, le prolétariat. On fait avec en démocratie depuis un siècle et demi. Y a des aspects qui deviennent beaucoup plus tendus, tu vois, dans les discussions, et on voit que ça peut amener à une certaine forme de folie dans la société française. Donc c'est ce que on a éprouvé. L'incapacité à avoir de l'empathie pour des gamins qui sont tués à Gaza est quand même un point de non-retour.
Quoi. Ça, je peux l'entendre. Mais vous avez eu des discussions avec elle pour lui... Comment c'est pas indiscret, parce que j'ai vu le film et tu te dis, mais comment ça s'est passé, cette rupture? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de la faire revenir à la fin, d'expliquer un peu plus ou...
Ouais, tu vois, il aurait fallu faire tous des discours à la fin, mettre tous des discours devant la caméra, enfin... Alors que je le redis, même si tu ne le vis pas comme ça, mais moi, mon sujet dans le film, ce n'était pas elle. Et c'est toujours pas elle. Je veux dire, je pense que dans le film, il y a des choses essentielles qui sont dites sur notre pays. Et tu vois, je te prends une séquence pour moi. Mohamed, qui est le poseur de câbles en formation à Grigny.
Alors, il bosse bien ou pas, mon collègue?
La graine, vous la forcez vers la
très bien, c'est bon.
Allez, un peu d'endurance, François.
Il dit, voilà, moi, même quand je serai poseur de câbles, je sais que je devrais prendre deux boulots, parce que c'est comme ça. Pour survivre, maintenant, il faut deux boulots. Déjà, la résignation qu'il y a pour se dire que, voilà, pour un gamin de banlieue, c'est normal, pour vous réussir à vivre, qu'il faille deux boulots. Mais il ajoute, moi, je voulais un CDI, on me donne pas le CDI. Je voulais de la stabilité, on me donne pas la stabilité. Il me semble que ce qu'il dit, à travers cette simple phrase, je veux de la stabilité, on me donne pas de la stabilité, c'est une demande très profonde des classes populaires de notre pays aujourd'hui. Qui est une demande de protection, une demande d'être assuré, une demande de stabilité. Et qu'au fond, depuis 40 ans, on a des dirigeants politiques qui ont installé de l'instabilité et qui ont fait de l'instabilité une vertu. Ça s'appelle la fluidité, ça s'appelle la mobilité, ça s'appelle la flexibilité, ça s'appelle la vie liquide. Gilles, auteur de La Sociale, rappelait que Ambroise Croizat, ministre des Travailleurs en 1945, quand il met en place la sécurité sociale, il dit qu'il va mettre en place des lois de tranquillité sociale.
Que les gens ne vivent plus dans l'angoisse du lendemain.
Et que même, c'est pour que les gens dorment bien. Il faut que les gens puissent dormir paisiblement. Ben, ce qui est fait depuis 40 ans, c'est tout l'inverse. C'est d'installer l'anxiété au cœur des classes populaires de notre pays, c'est de faire que les gens dorment de moins en moins bien la nuit. Enfin, voilà, tu vois. Et donc, je pense que dans notre film, mais par d'autres biais, et des biais qui peuvent être positifs. Je te prends un biais positif, à mon sens. Parce que notre film, tu vois, on a notre fil conducteur un peu comme une Commedia dell'arte. C'est au boulot, voilà. Et puis, comme on a beaucoup de marginal manœuvre, comme on n'a pas écrit de scénario ni rien, on peut bifurquer. Donc, on se retrouve au bord d'un terrain de foot, à flic secours, quoi, tu vois, dans les profondeurs de la Picardie. Et t'as là, sur le bord du terrain, un gamin de 7 ans qui vient te dire, bah, moi, je joue à la poupée et c'est normal que les filles, elles jouent au foot.
Avec ma petite cousine, je joue à la Barbie et je joue au bébé.
T'imagines, nous, l'éducation qu'on a reçue.
Je suis sûre que je trouve ça positif, toi.
Ouais.
Moi, non. Je trouve ça dramatique. Quand j'entends ça, je me dis, c'est un naufrage.
Et il te dit, c'est l'égalité homme-femme. Il vient expliquer ça à un môme de 7 ans. T'imagines ce que ça veut dire en termes d'évolution sociologique de notre pays pour que ça soit acquis au fin fond de la Picardie par un gamin de 7 ans. Et là, il faut dire merci aux enseignants. Et je pense que notre film, au fond, il dresse un portrait d'une France populaire, tu vois, qu'on voit rarement. Enfin, ce que raconte Louisa Auxiliaire de Vie sur son métier, à la fois son immense sentiment d'utilité, sa grande fierté de venir en aide aux personnes âgées et en même temps la manière dont la société la traite, elle. Combien de films de cinéma font ça aujourd'hui ?
Et pareil pour toi dans les biais qu'on s'autorise comme ça dans notre quête à la rencontre. On pousse la porte d'un restaurant et on se retrouve avec Haroun qui est un cuisinier afghan qui explique son parcours de vie. On lui consacre je sais pas combien de minutes qui fait ça aujourd'hui et il explique qu'il a traversé 11 frontières, qu'il a réussi à construire sa vie, qu'il a rencontré la mère de ses enfants et puis finalement par le travail il s'est intégré. Et puis maintenant, il a quand même un poste comme responsable de cuisine et il espère devenir chef de la cuisine.
Il a toujours pas ses papiers.
Et avec tout son...
Il a eu ses papiers. Tout bien. Je suis content, même.
Ouais. Ouais, et donc du coup, donc ce petit moment-là, eh ben finalement, c'est une magnifique réponse à Retailleau, à Bardella et toute la clique.
Parce qu'il vient faire de la ficelle picarde, le gars a traversé 11 frontières depuis l'Afghanistan pour venir faire des ficelles picardes sur le Kébélu Amiens, c'est quand même pas rien.
Donc toi, c'est pour dire aussi que dans le film, parce que c'est vrai qu'on focalisait un peu sur Sarah Salman, mais elle disparaît petit à petit au cours du film, donc je trouve que sa disparition n'est pas si brutale.
Vous savez si elle l'a vu
Oui, bien sûr. On avait deux conditions pour que, avec elle. Il y avait une première condition qui était qu'elle pouvait voir le film et elle nous a dit ce qu'elle en pensait en bien en mal et on n'avait pas à en tenir compte, on n'en a pas tenu compte. Et le deuxième truc, c'est qu'elle voulait organiser une projection pour ses amis. Donc les deux conditions étaient remplies. C'était les seules conditions.
Et elle est plutôt heureuse.
Je pense qu'elle est contente du film. Je veux dire qu'elle voit des moments où elle n'aime pas, mais elle voit en même temps. Je pense que même qu'elle a vécu sa meilleure vie. Tu sais, moi, ma conviction, c'est
Je pense qu'elle est heureuse du film. Ouais. Je pense qu'elle en sort...
Que ma conviction, c'est que tu sais même que...
Elle vous a utilisé autant que vous l'avez
peut-être,
un peu utilisé.
Peut-être. Enfin bon, c'est que... moi, ce qui me marque, tu vois, parce que on essaie de faire... Pour moi, il y a deux invisibles dans notre pays. Il y a les invisibles d'en bas, mais au fond, il y a un autre invisible aussi, c'est l'invisible d'en haut. Le capital, il n'est pas visible, tu vois. Tout ce que tu vas voir, c'est 150 milliards d'euros de dividendes, mais où est-ce qu'ils vont ces dividendes ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Qui les possède ? Ça, c'est pas visible. Et je pense que ça réintroduit la conflictualité aussi, si on arrive à montrer un peu de ces invisibles d'en haut. Donc là, c'est vraiment par le trou de la serrure, quand on va chez Balmain et ainsi de suite. Mais ça réintroduit la conflictualité, parce que sinon, on pourrait considérer que l'univers des modestes est normal.
Mais en plus, elle le dit assez bien, enfin, je m'excuse de reparler d'elle, mais elle dit qu'elle est pauvre chez les riches, elle est un petit peu. Mais en même temps, quand elle te montre une veste à 2800 balles, elle n'est pas naïve au point de... Tu vois, c'est de la provoque, quoi, qu'elle fait là. Ou tu crois que pour elle, 2800 balles, c'est rien, quoi.
Malheureusement, je crois que c'est assez naturel, ouais.
Et ça, tu vois, dans les salles de cinéma, c'est sûr que le croque-monsieur à 54 euros, le sac à 20 000 euros et la veste à 3000, c'est un truc qui revient pour les gens, quoi, qui est moteur de colère. Voilà, parce que du coup, les gens, il y a du rire, il y a de l'émotion et puis il y a aussi de la colère.
Nous, ce qu'on aime bien, c'est quand même la sortie des salles, c'est que les gens ont passé un bon moment. On a vécu franchement une tournée d'avant-première extraordinaire dans l'ambiance.
Vous avez l'habitude maintenant.
Ouais, mais là, peut-être encore plus dans l'engouement, puis l'envie d'en découdre avec toutes ces injustices qui sont flagrantes dans le film. Et puis je crois que la joie, le rire, ça remet aussi un peu d'essence dans le moteur.
Il y a une légèreté, il y a tout ça qui fonctionne. Et puis la stratégie, enfin, je sais pas si c'est une stratégie. Combien il y a de copies du film qui sort ?
140.
140,
oui. 140 quand même, ah ouais. Ah ouais, c'est une grosse sortie, quoi. Mais
c'est et pas en Star Wars non plus. Hein.
Non, mais d'accord, mais quand même, 140. Mais tu vois, le fait d'avoir fait autant d'avant-premières, parce que moi, je vous suis sur les réseaux sociaux, chaque fois, vous publiez des vidéos où les gens se lèvent, applaudissent. Ouais. Enfin, tu sens qu'il y a un engouement, quoi. Mmh. Donc, le bouche à oreille fonctionne. Ça veut dire que les gens sont heureux d'aller voir ce film. Et c'est vrai que ça crée de l'engouement, quoi. Mmh. Et vous avez eu des. Alors, bizarrement, moi, j'ai regardé aussi votre sortie dans les médias. Les journalistes font un peu la gueule, quoi. Ils parlent de démagogie. Toi, tu as été attaqué, d'ailleurs, par Jean-Michel Apathy sur le fait que tu as. Utiliser ton salaire de député. D'ailleurs, t'es toujours.
Pas utiliser mon salaire de député, mais.
Non, mais tu vois bien ce qu'il a écrit. Il a fait un tweet en disant que t'as utilisé. Enfin, que sur ton temps de travail, t'as fait ce film sur ton temps de travail.
Bon, j'ai fait d'abord sur des week-ends. Mais moi, je considère que ça appartient à mon activité de député. Pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis un représentant de la nation. Et je me force de représenter la nation. Elle est plus invisible de la nation. À la fois, je l'ai fait dans mon journal pendant 25 ans, je l'ai fait en radio avec Daniel Mermet à la Bastille. J'y suis, je rends hommage quand même, parce que je pense qu'on fait ces films-là aussi parce que j'ai eu cet apprentissage. Je l'ai fait quand je passe dans les médias, j'essaie de mettre en avant les classes populaires de mon pays, je le fais à la tribune de l'Assemblée, je le fais dans des films. Moi, mon objectif, c'est de représenter les plus invisibles de la nation. Bon, qui eux-mêmes, quand même, là, Louisa, elle accède à quelques plateaux télé, on fait exister les auxiliaires de vie, mais quand est-ce que les médias qui nous critiquent reçoivent une auxiliaire de vie, reçoivent un éboueur, reçoivent un livreur de chez Uber, enfin, tu vois, jamais, jamais. Le temps de présence médiatique des gens que nous, on met dans nos films, il est nul. Il n'existe pas. Et il n'existe à peu près aussi peu à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un député qui fait l'effort de son maximum à la fois pour aller les voir et en même temps pour leur donner la parole sur grand écran. Et après, il y a un deuxième truc qui est un peu bizarre, mais c'est que finalement, c'est par le biais du documentaire que je me reconnecte au réel le plus. Ça ne veut pas dire que je ne rencontre pas des gens normaux, mais tu veux, quand je fais une braderie et que je croise des gens, qu'on discute, qu'on papote 5 minutes et tout ça, c'est du micro-contact. Quand je reçois des gens à ma permanence, il y en a beaucoup qui sont des représentants, des porte-parole, de choses qui peuvent être très bien, mais bon, des syndicats, bon. Et il m'arrive de recevoir des gens qui ont des problèmes directement, quoi. Tu vois, la vraie France, enfin, les gens normaux, quoi, on va dire. Mais ça reste dans un cadre qui est un peu aseptisé de ma permanence parlementaire. Là, comme on fait un film, je suis obligé de mettre les bottes, d'aller dans la ferme du paysan, d'y passer une journée, de passer une journée avec un livreur en parcourant les rues, de passer une journée dans l'usine. Et le fait d'être... Bizarrement, c'est par le biais de la caméra et du film que je retrouve le contact le plus direct du réel. Avec moi, cette angoisse, tu sais que... Tu mettais dans ton premier livre, comment il s'appelle ton premier livre que j'ai adoré pourtant? Le premier.
Pendant les affaires.
Ouais, pendant les affaires continues. À un moment, tu dis qu'il est nécessaire pour le journalisme d'être énervé, d'avoir des nerfs plantés dans la société.
Oui,
tu vois. Eh ben, enfin, il est de la même manière pour un politique. Qu'est-ce que je vais aller porter dans les médias, à l'Assemblée, si jamais je suis pas énervé, si jamais j'ai pas ce contact avec les gens qui me nourrit et qui fait que je sais qui je viens défendre.
Et toi, tu disais, c'est vrai qu'on...
Voilà, monsieur Jean-Michel Apathy, ce que j'ai à vous répondre aujourd'hui.
Non, mais justement, attends, je veux rebondir, si tu me permets.
Ah, je t'en prie. T'es chez toi.
Est-ce que tu t'as senti, parce que là, tu parles des gens, du contact que t'as avec eux, et c'est vrai que t'es quelqu'un, on voit bien que t'es heureux quand t'es dans la foule, même je suis venu te soutenir dans des campagnes chez toi. Et là, le fait que t'aies eu cette rupture, j'ai pas envie de parler de Mélenchon, de ce qui se passe à la France Insoumise. non, mais je t'interroge pas. C'est pas ça. Je pourrais t'interroger là-dessus, mais je veux dire, c'est pas le lieu, on parle du film. Mais ce que je veux savoir, c'est que, quand même, t'as franchi un cap là en te séparant, en changeant de parti, en te séparant, en allant au fight. Et est-ce que dans les salles de cinéma, est-ce que quand tu rencontres des gens, etc., est-ce que tu sens de l'animosité maintenant contre toi? Parce que sur les réseaux, tu...
Oui, mais enfin, c'est là où on voit que il faut quand même distinguer très fortement ce qui se passe sur les réseaux sociaux où j'ai la chance qu'on aille pour moi et où j'ai pas à aller, et ce qui se passe dans la vie réelle, quoi.
Mais je te parle de la vie réelle.
Mais dans la vie réelle, il y a rien. Oui. Voilà. Dans la vie réelle, il n'y a rien. Il y a eu des salles de cinéma qui étaient remplies avec des standing ovations et bienveillantes, avec de temps en temps une question sur Gaza, une question sur la Palestine. Voilà, c'est normal, voilà, parce que ça, c'est un petit bout du film, donc c'est normal. Mais pour l'essentiel, voilà, moi, je vois très bien à quel point les réseaux sociaux et la vie ordinaire, ça n'a rien à voir, heureusement. Et d'ailleurs, même dans la manière dont Sarah Salman est reçue par les gens, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose dans le film qui est de l'ordre quand même de la revanche sociale. C'est-à-dire que c'est elle qui va aller nettoyer les toilettes Et on voit que Louisa et Vanessa, ça leur fait plaisir. Ouais. C'est elle qui va passer le balai dans le restaurant. Et Inès, la serveuse, elle fait un clin d'œil. Enfin, tu vois, il y a,
Mais d'ailleurs, elle a vraiment bossé ou elle le faisait pour l'image une fois que la caméra s'arrête?
Ah non, elle bosse, hein. Non. Et elle l'a vraiment, enfin, elle l'a vraiment fait. Enfin, tu vois, bon. Et avec les autres, tu lui dis non, mais là, c'est pas bien fait, regarde là. Enfin, voilà. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la revanche sociale. Mais sans doute plus important, il y a quelque chose qui, pour moi, du droit de réponse. On a des gens qui sont parlés plus qu'ils ne parlent. Ils sont parlés par les politiques, ils sont parlés par les médias. Et là, c'est comme si, tu sais, dans La Rose pourpre du Caire, Woody Allen, il fait sortir Mia Farrow de l'écran et elle vient dans la salle. Ben là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, un peu la même chose. On a une chroniqueuse de plateau télé, hop, on la fait sortir de l'écran et on la ramène d'égal à égal. Elle descend de son piédestal et elle se retrouve face aux gens qu'elle a insultés. Et qui lui disent, mais comment tu peux parler de nous comme ça? Comme tu connais rien de nos vies. Elle dit, ouais, bah oui, c'est pas faux. Mais ils lui disent, avec fermeté, mais avec bienveillance, quelque part.
Que
c'est-à-dire, et là aussi, je te vois, je te fais la distinction entre les réseaux sociaux et la vie où les gens, ils passent pas leur temps à s'injurier, à s'insulter.
Oui, mais là, quand même, là, sur, c'est pas les réseaux sociaux qui, enfin, il y a une sorte d'opposition qui s'est créée entre les campagnes et les banlieues. Enfin, peut-être qu'on t'a mis dans un combat qui te plaît pas beaucoup, mais tu vois bien, il y a cette, là, le film est plutôt un film des campagnes que des banlieues.
Bah non, je crois pas.
Bah non. Enfin. Si tu regardes en tant que mulet, non?
Non, mais si tu regardes, Louisa, elle est dans une banlieue à Saint-Étienne. On a Amine qui vient des banlieues de Saint-Étienne et qui nous livre partout à Lyon. Enfin voilà, on va dans le centre de formation à Grigny. Enfin, nous, même, je veux te dire, dans la démarche qui est la nôtre, c'est là. Je fais un manifeste politique aussi. J'ai pas envie de le dire. On fait un film qui est pas un film de discours, jamais.
On fait la chasse.
Nous, on fait pas des économistes, des sociologues, des politistes à l'intérieur de nos films. Tu vois, c'est l'émotion qui doit prendre le dessus. Mais pour moi, c'est un film politique. Je pense qu'il nous faut une gauche joyeuse et généreuse. Je la montre. Tu vois, je la fais vivre à l'écran. Je pense qu'il nous faut maintenant une France humaine et fraternelle, rassemblée, que ça soit en banlieue à Grigny ou dans le Morvan, bon, avec Louisa dans sa tenue traditionnelle algérienne ou Élie, le paysan du Morvan. Et on monte une France humaine, fraternelle, rassemblée. Bon. Et enfin, ma conviction, c'est que de la même manière que le Parti communiste d'après-guerre avait héroïsé les mineurs de fonds et les métallos en disant « c'est vous qui reconstruisez le pays », la gauche d'aujourd'hui, elle doit héroïser le chariste, le manutentionnaire, l'auxiliaire de vie, la caissière, en disant « c'est vous qui tenez le pays debout ». Pas seulement en disant « le SMIC à 1600 euros », mais en donnant des noms, des prénoms, des noms de lieux, des noms de métiers, des conditions de travail particulières, de manière à ce que les gens se sentent incarnés, représentés, et qu'ils disent « c'est la gauche qui parle de moi, je vais voter à gauche, à terme ». Tu vois. Et donc, finalement, sans le dire comme ça dans le film, mais je passe de la critique ou un peu fatigué, j'ai dit pendant des années, voilà ce qu'il nous faudrait faire, à le faire.
J'ai connu ta période où t'en avais marre, où tu disais je sers à rien à l'Assemblée, enfin, etc. J'ai connu ta période où
qui est récurrente, hein, c'est pas ça, c'est pas une période, non, c'est là, des périodes.
Non, mais quand même, t'as vu ce qu'on a subi avec la dissolution, on a échappé de peu au Rassemblement National, etc. Il y a des bouleversements comme ça autour de nous. Et toi, comment tu, là, c'est plus, ouais, enfin, c'est aux politiques aussi que je parle, est-ce que t'as une sorte d'angoisse qui monte? Parce que c'est bien beau de dire, il faut amener de la joie, il faut amener de la gauche, etc. Mais tu vois bien que les médias, enfin, tu vois bien le paysage comme il a évolué, quoi. Et tu peux répéter ça, mais à un moment donné...
C'est la phrase de Gramsci qui dit qu'il nous faut allier le pessimisme de la lucidité et l'optimisme de la volonté. Les raisons d'être inquiet aujourd'hui sont multiples. Si tu regardes ce qui se passe en Espagne, les conséquences du réchauffement climatique qui ne sont pas prises au sérieux et une non-transformation de l'économie. Enfin, je veux dire, tu as des dizaines de raisons d'être inquiet. Bon, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'on fait une dépression ou bien est-ce que, bon, on dit, allez, on y retourne, quoi.
Et toi, ton engagement, tu as fait quand même beaucoup de films. Je ne parle pas de la fiction, mais même la fiction, c'est un film très politique. Quoi. Mm-hmm. Comment tu vis, toi, cette dissolution, ces bouleversements politiques et ta place de documentariste ou de cinéaste dans ce paysage-là? Comment ça te fait bouger? Et quel espoir ou quel désespoir
ça m'affole terriblement, mais en même temps, je me fais toujours un devoir de représenter ces classes populaires et ces gens, leur redonner de la dignité, de leur redonner de la place sur les écrans, et aussi de continuer la bataille, parce que j'ai eu quand même la chance de faire beaucoup de films sur la Résistance, de passer beaucoup de temps avec Raymond Aubrac, avec Stéphane Hessel, Daniel Cordier, Walter...
Avec Léon.
Avec Léon Landini, bien sûr. Et donc,
on l'a retrouvé, t'as vu.
Ouais, j'ai vu, c'est chouette. Et eux étaient certainement les plus grands optimistes, parce que la situation en 1944, elle était encore pire que nous, quoi. Leurs potes étaient torturés, eux-mêmes étaient torturés, ça dénonçait de partout, les nazis étaient là, l'extrême droite, évidemment, en collaboration. Et c'est à ce moment-là qu'ils écrivent le programme Les Jours Heureux. Et que 2 ans après, Aubrac me disait, tu vois, on était en prison, il se fait arrêter avec Jean Moulin et tout comme ça, qui aurait dit que 2 ans plus tard, on allait faire la sécurité sociale, on allait nationaliser les banques et tout. Donc moi, je me fais un devoir de garder de l'optimisme et de continuer de mener le combat et surtout de montrer tout le temps que c'est quand on est ensemble qu'on est fort. Et la division permanente organisée des classes populaires entre les immigrés, les Français, les campagnes, les villes, les trucs, on sait que c'est ravageur. Et donc nous, en faisant des films comme ça, qui sont humanistes, qui travaillent sur les émotions, on voit qu'on a une communauté quand même et un intérêt commun entre toutes ces classes populaires, et il faut le montrer. Après, ça m'affole, mais écoute, j'espère que j'aurai pas démérité, puis qu'on va... Et puis à la fin, c'est nous qu'on va gagner, comme dirait...
En plus, t'as un point de vue très rare et très particulier, c'est que t'as fait un film sur Jean-Luc Mélenchon, t'es ami avec François, donc comment tu parles de gauche, la gauche est quand même assez fracturée, quoi. Et est-ce que t'as des signes, tu penses
ouais,
que...
Ouais, moi j'ai la chance aussi d'habiter loin de tout le petit milieu politique qui croit que tout se passe autour d'eux, et en fait je suis... Vous disiez quoi, énervé, c'est ça? Là où j'habite, tout le monde ne pense pas la même chose et tout, et franchement, l'histoire, par exemple, entre Jean-Luc et François, il y en a qui disent il a bien fait, il a pas bien fait, enfin tout ça, mais en tout cas, franchement, ça... Et je te parle de gens qui votent à gauche, mais ils s'en foutent un peu, quoi. Alors François, c'est un ami de longue date, j'ai fait le film avec Mélenchon et je m'en suis très reconnaissant parce que franchement, j'avais fait ce film dans des conditions qui étaient
très beau
inespérées.
Film, enfin,
oui, et puis en plus, avec
une image de fin formidable.
Et puis une liberté totale. Qui aujourd'hui peut faire un film politique avec cette liberté où Jean-Luc Mélenchon m'avait même pas demandé de regarder le film avant qu'il soit diffusé. Donc moi j'en suis là et puis moi je fais des films.
Parce que moi je regarde les films avant qu'ils soient diffusés. Il y a un comité de censure.
Toi, j'ai encore une question sur les médias, François. Comment tu... parce que je te vois comme ça. Enfin, quand tu vas sur CNews, toi?
Non, je n'ai pas passé une seule fois sur CNews.
D'accord. Et quand tu vas à BFM ou à LCI, ou quand tu as l'impression d'aller au combat, ou tu as face
même,
à toi
même,
des gens
même ailleurs,
Inter,
hein.
Ou même... non, mais...
Même Inter hier matin.
Oui, à France Inter, tu t'es fait un peu charbonner là, parmi Sonia Deville. Tu avais l'impression qu'elle avait un compte à régler avec toi, quoi. Il y avait une sorte de colère.
Vous n'auriez pas peur des caricatures? Il n'y a pas quelque chose de fantastiquement démagogique? Est-ce que vous ne cédez pas à la facilité en la faisant venir, elle, en usine, plutôt que n'importe qui d'autre, qui chiffre du chômage, chiffre des inégalités sociales à l'appui, va vous démontrer par A plus B qu'il faut supprimer l'impôt, libérer l'investissement, prendre des
Madame
mesures...
De Villers. Si jamais elle n'a pas aimé le film, si jamais elle ne m'aime pas, elle n'est pas obligée de m'inviter pour me faire du mal, pour se faire du mal à elle-même, mais pour faire du mal aux auditeurs. Quoi.
Non, mais je veux dire, quand tu vas dans les médias...
On peut se réveiller autrement le lundi matin, je trouve.
Quel regard tu portes sur les médias?
Moi, ce qui me... Tu vois, je te le dis, mon obsession, c'est comment je vais avoir les 5 minutes où je vais pouvoir parler des gens, tu vois, et où je vais pouvoir défendre des voix, des vies, des visages. Et en fait, ce qui me navre le plus, hier matin, pour prendre cet exemple très concret, sur Inter, c'est pas qu'elle m'attaque, mais c'est qu'elle me passe 9 minutes sur Salman, et 0 sur Louisa, 0 sur Sylvain, 0 sur Mohamed, 0 sur Haroun. Enfin, c'est comme si tous ces gens-là, qui déjà n'existent pas, tu vois, enfin, c'est une espèce de négation. De la même manière que quand tu lis les mémoires de Saint-Simon, tu vois que ça fait des centaines de pages, il n'y a pas un mot sur les paysans, tout est sur les aristocrates de la cour à Versailles. Quand je regarde l'actualité, les médias, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est la vie des grands qui efface la vie des gens. Et c'est en fait, mon combat, c'est de les faire rentrer. Quand je fais un film ou quand je produis un livre, c'est aussi pour déplacer le débat sur mon terrain. Tu vois, si je fais un livre sur le mal travail, je sais quand je vais être invité sur BFM, bah, je vais pouvoir passer 5 minutes sur le mal travail. Sur le fait que les inaptitudes sont passées de 50 000 inaptitudes par an à 100 000 en 10 ans. T'imagines ? Ça veut dire que les gens, il y a 100 000 personnes qui, tous les ans, vont à Pôle emploi parce qu'ils sont brisés physiquement ou psychiquement par le travail.
Et puis les burn-out qui augmentent.
C'est dedans, c'est psychique, tu vois. Mais t'as là, pour faire bref, tu vois, 100 000, t'en as la moitié, c'est des troubles musculo-squelettiques, l'autre, c'est des troubles psychiques liés au travail. Bon, 100 000, c'est comme si l'industrie automobile disparaissait tous les ans. Et dans le silence, c'est la poussière d'humain mise sur le tapis. Bah, évidemment, quand je fais un bouquin là-dessus, je me dis, bon, je vais pouvoir y aller et parler de ça. Et pas parler des querelles.
Mais est-ce que tu sens que dans cet univers médiatique, est-ce que tu le sens évoluer? Est-ce qu'il est le même qu'il y a 5 ans? Parce qu'on voit bien qu'on est dans une nouvelle langue. Là, aujourd'hui, tout le monde est d'extrême gauche. Il n'y a plus de gauche. Toi, tu parles de la gauche. Mais tu vois bien qu'il y a des glissements sémantiques en permanence, quoi.
Oui. Après, moi, par rapport à quand j'ai écrit mon bouquin sur les petits soldats du journalisme, ce qui était le moment où j'ai passé des années à écrire sur les médias. Et aujourd'hui, je veux dire, il est évident que notamment Bolloré contribue à droitiser le champ médiatique, pas seulement lui, mais comme ça marche, sa télé, ça produit un effet d'imitation et ça fait tomber des dominos par derrière. Bon, et puis ça s'appuie évidemment sur un Rassemblement National qui est le premier parti du pays. Donc voilà, il y a quelque chose là-dessus. Maintenant, en termes de liberté, je trouve que les réseaux sociaux, ce que vous faites et ainsi de suite, ça ouvre des bulles d'expression qui n'existaient pas il y a 25 ans. Enfin, quand on me dépeint, ah mais qu'est-ce que c'était bien, au moins il n'y avait pas n'importe quoi qui se racontait, tout ça. Enfin, je me souviens de la fin des années 90 quand même, où quand tu voulais faire du journalisme en sortant d'une école avec une liberté d'expression et tout ça, fallait que tu crées ton journal. C'était la galère. Aujourd'hui, je pense que on a un champ qui est peut-être avec des niches, malheureusement. Tu sais, une niche, je dis, c'est un endroit où à la fois on peut aboyer, mais on a quand même la laisse. Donc ça veut dire qu'on est limité dans les effets qu'on produit. Mais quand même, je trouve que et puis même du coup des effets rebonds qui fait qu'il y a des infos qui sortent sur des médias qui sont dominés, alternatifs et ainsi de suite, et qui rebondissent et que les médias dominants ils peuvent plus ignorer. Auparavant, enfin, je trouve que on avait on avait un système d'information qui était hyper rigide.
Rigidifié, oui.
Et moi, je peux pas peindre comment c'était il y a 30 ans comme un espèce d'idéal. Je me bagarrais contre ça il y a 30 ans. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est super et il y a de la joie et tu vois, je vais pas sur CNews donc mais.
Mais là, tu vas t'investir, tu reviens plus au journalisme ou tu reviens pour faire des films ou tu travailles toujours un peu à Fakir.
Non, j'ai pu écrire un papier pour Fakir depuis la dernière élection de 2022. Tu vois, je pouvais plus.
Mais tu repasses plus, enfin tu.
Non, je m'entends très bien avec Fakir.
Ben oui, non, voilà, Fakir est un très bon journal.
Je pense que j'ai laissé un outil dans un bon état financier, avec des abonnés, avec tout ça. Mais moi, j'en pouvais plus.
Ouais. En tout cas, par rapport à ça, Fakir, bah, je comprends par rapport à l'emploi du temps de François, on se demande comment il arrive à faire tout ce qu'il fait. Mais sur Fakir, je vous conseille quand même, il y a un dossier sur le vote Rassemblement National qui est formidable.
D'enquête,
ce mois-ci, franchement, c'est génial. Parce que ça explique beaucoup de choses, entre le racisme et le vote du RN, etc. Et franchement, c'est super. Parce que moi, c'est ce que je vis et c'est ce que je côtoie. Et puis, il y a une belle, belle enquête et ça vaut le coup. C'est pas souvent qu'on est aussi... je sais pas comment dire. C'est souvent caricatural, le regard. Et là, il y a une analyse de fond qui est vraiment chouette, de terrain.
D'accord. Bon, ben, merci à vous deux, quoi. Vous avez une idée du prochain ou non?
Non, pas du tout. Moi, j'aimerais bien... Non, mais moi, tu sais, moi, j'ai besoin de créer... et je dirais que
d'écrire aussi,
créer, soit écrire, soit. Mais malheureusement, je suis inapte à écrire des fictions. Donc bon.
Ben. Moi, je prépare une fiction.
Voilà, lui je prépare une fiction. Non, mais moi, j'ai besoin de créer pour me mettre des bulles de champagne dans la tête, tu vois.
Mais là, toi aussi, tu travailles aussi à reconstruire la gauche. Enfin, tu t'investis un petit peu dans les réunions.
On va pas en parler là.
Non, mais je veux dire, c'est
je pense que je travaille à reconstruire la gauche par le film qu'on sort là. Je le te dis, pour moi, il y a un contenu manifeste politique de ce que devrait faire la gauche, joyeuse et généreuse, fraternelle, humaine, aimant la France, la donnant à aimer, avec cette centralité pour moi du travail, je le répète, qu'il soit bénévole ou salarié.
Très bien. Bah, allez tous voir au boulot. Hein, c'est pas du boulot, c'est vraiment du plaisir. Abonnez-vous à Blast, faites des dons, etc. Et passez le bonjour à Sarah Salman, puisque c'est devenu votre copine.
Merci, Denis.
Vraiment.
Non, mais merci à vous deux d'être venus.
Je vois que t'es jaloux parce que t'as pas été invité au Plaza Athénée déguster un croque-monsieur
là. Je veux bien aller manger un croque avec elle. Moi, je la trouve. Non, mais bon, voilà. Non, mais c'est. Moi, j'ai pris du plaisir à voir votre film, donc c'est pour ça que je vous ai invité. Merci d'être venu.
Nous, on a pris du plaisir à être là.
Ouais, c'est très agréable.
Merci. Salut à tous, au revoir.
À bientôt.